êtes sur CFM avec Josiane Andrieux pour votre émission Namasté. Alors d'abord, je voulais vous souhaiter une très très bonne année 2012 avec plein de bonheur, de douceur, de sérénité. Et avant de commencer cette émission de bien-être, de détente, vous pouvez vous installer confortablement dans un endroit tranquille. Vous pouvez vous déchausser aussi pour être plus à l'aise et baisser les lumières. Vous pouvez vous asseoir sur un tapis ou, pour ceux qui sont moins souples, sur une chaise ou un fauteuil bien dur, de façon à ne pas vous affaisser, car il est important de garder son dos bien droit pour éviter des tensions et des douleurs. Alors, dans la première partie, nous allons continuer de parler de la vie des Sherpas, puis nous continuerons avec la philosophie de la méditation bouddhiste tibétaine. Nous ferons ensuite quelques petits exercices physiques. Alors je rappelle que ce sont toujours à peu près les mêmes exercices, car il est très difficile de présenter à la radio une grande diversité de ceux-ci. Toutefois, s'il vous intéresse, vous pouvez toujours y consulter mon site, où vous trouverez plusieurs vidéos de différents mini-cours d'étirement. Alors je vous rappelle mon site qui est étirementyogaaveyron.com. Ou bien vous pouvez venir me rencontrer dans mon atelier à Villefranche-de-Rouergue qui se situe 6 rue de la Treille. Nous ferons également une petite pratique de méditation bouddhiste tibétaine et nous terminerons sur la phrase de la semaine. La Sherpani, qui est la femme du Sherpa, est assujettie à son époux. Elle s'occupe des tâches ménagères, de l'éducation des enfants et des cultures en l'absence du mari. Elle gère souvent les dépenses du logis. Avec l'avènement du trekking, de nombreux Sherpas ont ouvert des petites auberges où ont converti une partie de leur maison en lodge, pour accommoder les trekkers. Durant les saisons touristiques, au printemps et à l'automne, lorsque les maris partent à la montagne, les Sherpani assument l'entière responsabilité du foyer et assurent le fonctionnement des lodges et des petites auberges. Sont très permissifs en ce qui a trait à l'éducation des enfants. Les enfants se voient par ailleurs confier des responsabilités très tôt dans la vie. Ils doivent exécuter les corvées d'eau et de bois de chauffage. On voit souvent les fillettes porter un jeune enfant de la famille dans une sorte de poche en tissu accrochée à leur dos. Quant aux jeunes garçons, ils apprennent très tôt à prendre soin des yaks. Vers la fin de l'adolescence, nombreux sont ceux qui partent dans les hauts pâturages pour y faire paître les yaks durant la saison estivale. Traditionnellement, bien que ce ne soit pas strictement pratiqué, le prénom attribué aux hommes correspond souvent au jour de la semaine où ils sont nés. Dawa pour le lundi, Mingma pour le mardi, Lakpa pour le mercredi, Purba pour le jeudi, Pasang pour le vendredi, Pimba pour le samedi, Ngima pour le dimanche. Les Sherpas ont pour patronyme le nom de leur ethnie. Afin de se distinguer entre eux, puisque nombreux sont ceux qui portent le même nom, les Sherpas ont l'habitude de préciser le lieu de résidence de la personne qu'ils veulent désigner. Par exemple, Mi'kma Sherpa de Pamboche ou Pasang Sherpa de Kunjung. parler des Sherpas sans aborder leur religion, surtout leur ferveur religieuse, tellement leur quotidien en est imprégné. Les Sherpas sont bouddhistes. Plus précisément, ils pratiquent le bouddhisme tantrique rattaché à l'école Vajrayana et Mahayana, parfois appelé aussi bouddhisme tibétain ou lamaïsme. Encore plus précisément, il s'agit de l'école Nyingma du bouddhisme tibétain. Cette forme de bouddhisme se caractérise par ses nombreuses divinités et par un ensemble de rituels faisant largement appel au mouvement et au son, ce qui lui confère un caractère quelque peu ésotérique. Ayant conservé des rudiments de la vieille religion bonne pré-bouddhique, le bouddhisme des Sherpas comporte de nombreuses superstitions et la croyance en un monde d'esprit malveillant, d'où le recours à des pratiques chamaniques ayant notamment pour but d'amadouer les mauvais esprits, cause de maladies et de mauvaises fortunes. Toutefois, les chamans seraient très peu nombreux désormais dans les communautés Sherpa et leur influence ne serait plus très probante. Dans cette forme de bouddhisme, les prêtres sont des lamas. Ils vivent dans des monastères que l'on appelle Gompa. Les moines qui ont prononcé leur vœu de célibat sont désignés par le terme Gelung. Quant aux moines novices, on les nomme Chade. Chaque monastère est dirigé par un lamaché qui signifie grand lama. Le clergé compte aussi des lamas de village. Ce sont des paysans, la plupart du temps mariés, ayant acquis quelques connaissances religieuses dans un monastère ou auprès d'un autre lama. Les Sherpas respectent autant les lamas de village que les lamas des monastères. Comme les lamas, les lamini peuvent être nonnes ou mariées. Cependant, elles ne sont pas autant considérées que les lamas dans la communauté. Les lamas des monastères se réunissent quotidiennement pour assister aux offices religieux, pendant lesquels ils récitent en chœur des mantras, tout en faisant tourner leur moulin à prière. Tandis que retentissent coups de tambour, de gong et de cymbales. De longues heures sont également consacrées à l'étude de la philosophie et des textes sacrés. De la méditation bouddhiste tibétaine. On voudrait bien trouver le bonheur, le bien-être en un clic. Aujourd'hui, on est dans un système de consommation où lorsque nous avons un désir, il faut pouvoir l'assouvir tout de suite. Malheureusement, pour le bonheur, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas avoir le bonheur sur commande. Pour cela, il y a vraiment un travail à faire. Et ce travail-là, c'est chacun de nous qui doit le faire. On n'est absolument pas pris en charge dans cette démarche-là. Et il ne faut pas croire que ce soit quelque chose de passif. Là, on nous donne une technique, mais c'est à nous de nous y mettre et d'avoir une assiduité dans ce chemin. Autrement, eh bien, ça ne marche pas. Donc il est important de commencer à nous entraîner à nous poser chaque jour. Au moins 5 minutes. Et ça, comme ça, vu de loin, on peut croire que c'est très facile de se poser comme ça 5 minutes tous les jours. Mais vous verrez que lorsque vous aurez commencé à vous entraîner à vous poser quelques minutes, même quelques secondes, ceci va vous paraître très difficile. Parce qu'il est très difficile d'être dans ce qu'on appelle le non-agir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Mais là, dans cette pratique-là, on s'entraîne à ne pas être dans la saisie de notre bavardage mental. Il va falloir apprendre à rester dans la présence et non dans un truc tout fermé où il ne se passe plus rien. Il va falloir apprendre à accueillir les bruits, les odeurs, les pensées, les émotions, toutes ces choses-là, sans que tout de suite on analyse, on conceptualise. Et la difficulté, elle est là. Et cela va vraiment demander un entraînement au quotidien. Alors ça ne va pas être facile, mais petit à petit, eh bien, l'esprit va finir par se détendre. Alors, détente ici ne signifie pas encore libération, mais il n'en reste pas moins qu'on va avoir une sensation de légèreté. Un soulagement, moins de poids sur nous. Et même en tant qu'hygiène mentale, ceci est très bon. Pourquoi ? Parce que ça évite de véhiculer le stress que nous avons dans le travail, dans les tensions qui s'élèvent dans notre vie quotidienne. Là, on va être posé, donc on va moins râler, on va être plus dans la présence. Donc c'est extrêmement positif. Et la méditation est la base sur laquelle on va vraiment pouvoir faire un travail pour mieux voir tous les processus qui se mettent en place. Mais pour cela, il est extrêmement positif d'aller écouter les enseignements dans les centres bouddhistes, car ceci va être vraiment une aide dans notre pratique. Cela va nous permettre de rencontrer des lamas et de discuter avec eux. Et l'écoute des enseignements et la relation aux lamas vont nous aider à travailler sur nos tendances, sur nos habitudes, qui sont liées à notre culture, à nos traditions. Alors bien sûr, elles ne sont pas négatives en soi, mais le problème vient de ce qu'on en fait. Si nous pouvons nous engager dans une pratique quotidienne, nous obtiendrons à coup sûr des résultats. Parce que nous avons tous des capacités qui sont différentes, mais nous pouvons tous avancer dans la pratique. Et les enseignements et les méditations que nous donneront les lamas nous aideront à avoir une pratique de façon juste. Ceci nous permettra d'éviter les tripes personnelles dans la méditation. Et c'est important car bien souvent, nous avons tendance à faire notre sauce sans même nous en rendre compte. Lama Jigme Rinpoche dit « C'est la recherche d'un confort personnel qui nous entraîne à aménager l'enseignement à notre manière. » Le but de la méditation, du calme mental, ce n'est pas d'être dans un espèce de cocon tout joli, tout mignon, où tout va bien. Parce que ça, eh bien, ce n'est pas du bouddhisme. Le but du calme mental est de pouvoir voir. Pourquoi ? Parce que si on s'installe juste dans un cocon, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui fonctionnent comme cela, eh bien, cette pratique-là sera complètement inefficace lorsqu'on va se trouver en situation difficile. Pourquoi ? Parce que ce genre de pratique ne va pas du tout nous aider à transformer ce qui ne va pas en nous. Bien souvent, ce sont des pratiques passives qui sont proposées à ces groupes-là. C'est-à-dire une pratique où, par exemple, on va vous faire allonger et on va vous demander de visualiser les vagues sur la plage. Ou bien de détendre vos jambes, vos bras, vos pieds. Ou bien on va vous faire asseoir en tailleur et on va vous passer une musique douce. Et on va vous demander de fermer les yeux. Alors bien sûr que dans ce genre de pratique, vous allez avoir une détente immédiate. Mais il ne va rien en rester lorsque vous allez quitter ce genre de pratique. Vous allez être bien, tranquille, mais aucune transformation ne va se faire de l'intérieur. Et lorsque vous allez vous trouver en situation difficile, eh bien, toutes les émotions vont s'élever, vont être là, et peut-être même encore plus fortes, parce que ce genre de pratique, c'est une fuite, mais c'est pas un travail sur l'ego. Et tout ça n'a rien à voir avec la méditation bouddhiste. Dans la pratique de chiné, c'est-à-dire du calme mental, il va vraiment y avoir une transformation de l'intérieur. Et lorsqu'on va être confronté à une épreuve, comme la maladie ou par exemple la relation avec sa conjointe ou son conjoint qui se passe plus ou moins bien, bon, on a plein de situations comme ça dans la vie avec des hauts et des bas, et bien là, le fait d'avoir bien pratiqué la méditation, il va y avoir une distance entre l'émotion et l'être, et l'esprit va rester plus clair. Et de ce fait, la situation va se gérer de façon plus légère. Alors bien sûr, on ne va pas éviter tous les obstacles, toutes les épreuves, mais elles vont se passer avec beaucoup moins de souffrance. Et la méditation nous aura permis de nous entraîner à voir, donc à transformer notre ego, et donc les situations difficiles seront beaucoup plus légères à vivre. Et nous allons nous arrêter là pour la philosophie de la méditation bouddhiste tibétaine. Alors je vous rappelle que vous êtes sur CFM avec Josiane Andrieux pour votre émission Namasté, émission que vous pouvez retrouver tous les lundis à 20h et tous les dimanches à 9h, mais aussi sur internet. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous recherchez CFM Radio Villefranche et vous cliquez sur Namasté. et on enchaîne avec quelques petits exercices physiques. Donc, eh bien, vous allez vous mettre debout. Et pour bien lâcher les tensions du haut du dos, vous commencez par des rotations d'épaule, donc vous faites des cercles bien amples, en veillant à être vraiment bien droit, la tête bien droite dans l'axe. Puis vous partez tranquillement dans l'autre sens, vous continuez le mouvement des épaules, vous sentez bien les tensions tomber une à une, sentez bien votre dos se détendre. Et maintenant, nous allons commencer à travailler l'étirement du dos. Donc, en inspirant, vous allez monter le bras droit, étirer au maximum votre bras jusqu'au bout des doigts, serrer les fessiers, serrer le ventre pour bien protéger les lombaires, et en expirant, descendez votre bras sur le côté. Vous faites la même chose avec l'autre bras. Inspirez, montez votre bras. Essayez de le rapprocher au maximum de votre oreille, bien bien étiré, bien tendu, et en expirant, descendez votre bras sur le côté. Vous continuez comme ceci, tranquillement, tantôt le bras droit, tantôt le bras gauche. Associez bien la respiration au mouvement. Pensez bien que vous montez le bras en inspirant et que vous le descendez lorsque vous expirez. La respiration se fait toujours par les narines. Elle sera ainsi beaucoup plus profonde. Continuez encore un petit peu cet exercice. C'est un exercice que vous pouvez refaire chez vous tous les jours, une dizaine de fois. On va continuer à étirer le dos. Pour ceci, vous allez serrer les paumes sur poitrine. Et on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Gardez toujours les paumes serrées l'une contre l'autre. Étirez vos bras au maximum. Toujours fessiers serrés, ventre serré. Et en expirant, descendez les bras sur les côtés. On continue, on inspire et étirez. Paumes serrées l'une contre l'autre, montez bien vos bras et en expirant, descendez les bras sur les côtés. Cet exercice aussi, vous pouvez le faire tous les jours tranquillement, une dizaine de fois. Et maintenant, on va assouplir un petit peu les chevilles et passer aussi au travail de l'équilibre, parce que c'est important de travailler l'équilibre. Donc, on monte et on descend alternativement les talons. Vous passez bien à chaque fois sur la base des orteils, toujours en gardant le dos bien droit, les épaules bien tirées en arrière et vers le bas, la tête bien droite dans l'axe. Montez bien vos talons. Continuez comme ceci, tranquillement. Et vous pouvez faire cet exercice tous les jours également, une vingtaine de fois. Maintenant, ceux qui sont souples, vous pouvez vous asseoir par terre sur votre tapis. Pour les autres, eh bien, vous pouvez travailler assis sur votre chaise. Donc, ceux qui sont assis, pensez quand même à garder le dos droit et les jambes bien parallèles entre elles. Ceux qui sont assis par terre, eh bien, vous gardez les jambes allongées, les pieds serrés, et vous ramenez les orteils vers vous, c'est-à-dire bien pieds flex, de façon à bien plaquer les mollets et les cuisses au sol. Le dos est bien droit. Et pour tout le monde pareil, vous placez le pouce gauche dans la main droite et on va faire comme si on était en train de ramer. Donc à chaque expiration, vous allez amener les mains le plus près possible des membres inférieurs. Et en inspirant, vous partez un petit peu en arrière, pas trop quand même, pour ne pas cambrer. Donc en expirant, vous venez bien sur l'avant. En inspirant, vous partez un petit peu en arrière. Vous faites ce mouvement-là, tranquillement, une dizaine de fois, dans un sens, et une dizaine de fois dans l'autre sens. Maintenant, nous allons passer à la respiration abdominale. Donc, ceux qui sont assis sur leur chaise, eh bien, vous restez assis sur la chaise, pas de problème, en gardant à ce moment-là les mains sur les cuisses, le dos droit, les épaules ouvertes, la tête droite dans l'axe. Pour ceux qui sont assis sur leur tapis, eh bien, vous allez vous allonger. Si vous avez des problèmes de dos, vous pouvez replier les jambes pour garder les lombaires bien plaquées au sol. Si vous n'avez aucun problème, eh bien, vous pouvez allonger les jambes. Gardez les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel, la tête bien droite dans l'axe. Et là, vous pouvez fermer les yeux et observer le mouvement du ventre dans la respiration abdominale. À chaque expiration, vous rentrez lentement le ventre. À la fin de l'expiration, vous relâchez le ventre, puis vous inspirez. Et vous expirez en rentrant doucement le ventre. À la fin de l'expiration, vous relâchez le ventre, puis vous inspirez. Donc vous continuez tranquillement cette respiration abdominale et essayez de rester concentré sur le mouvement du ventre dans la respiration. Thank you. Et nous passons à la pratique de la méditation bouddhiste tibétaine. Donc, pour tout le monde, vous allez la faire assis. Donc, on garde le dos bien droit. Nous sommes assis d'une manière confortable. Le dos droit, cela veut dire bien ramener le bassin vers l'avant. Parce qu'à partir de là, la colonne vertébrale va être droite et sans tension au niveau de la nuque. Nous pouvons prendre la mudra de la méditation en posant la main droite sur la main gauche, phalange sur phalange, pouce l'un contre l'autre. Les poignets sont sur les cuisses et les paumes des mains tournées vers le ciel. On garde les yeux ouverts de façon à ne pas se couper du monde extérieur. Si on ferme les yeux, eh bien, on rentre un peu comme dans une espèce de bulle. Et après, lorsque nous allons retourner à nos activités, nous allons avoir beaucoup de mal dans la relation avec les autres et dans le monde extérieur. C'est pourquoi il est important de s'entraîner à méditer les yeux ouverts. Si nous avons trop d'agitation mentale, on pose simplement le regard à 45 degrés vers le sol. Si au contraire on tombe dans une semi-somnolence, dans la torpeur, on lève un peu le regard. On desserre les dents et les lèvres en laissant passer un léger sourire de façon à détendre les muscles du visage. Il est dit que si les muscles du visage sont détendus, tous les muscles du reste du corps sont détendus aussi. Et on reste ainsi dans cet état de paix, de détente, de tranquillité, ouvert à tous les phénomènes intérieurs et extérieurs, sans saisir quoi que ce soit. On reste ainsi en étant simplement l'observateur de tout ce qui s'élève à l'intérieur de nous et à l'extérieur, sans s'y accrocher. Rien ne nous dérange, ni les bruits, ni les formes, ni les couleurs, ni les pensées. On entraîne son esprit à être là, présent à l'instant, complètement détendu et ouvert. Juste concentré sur le va-et-vient du souffle. À chaque fois qu'on inspire, on est conscient qu'on inspire. À chaque fois qu'on expire, on est conscient qu'on expire. Sans se concentrer, sans se forcer, juste détendu. Et lorsque nous nous rendons compte que nous suivons nos pensées qui s'élèvent, eh bien, on revient tranquillement sur le va-et-vient du souffle, sans saisir les phénomènes mentaux, quels qu'ils soient. Ils apparaissent et on ne les saisit pas, puis ils disparaissent. Et c'est comme ça d'instant en instant. On pourrait comparer notre esprit à l'océan avec ses milliards de vagues. Si on veut rendre l'océan plat, il faut enlever toutes les vagues. Et ceci, c'est impossible. Pour notre esprit, eh bien, c'est pareil. Une pensée s'élève, puis elle meurt. Puis il y en a mille autres qui arrivent derrière. On ne peut pas arrêter les pensées. Il y en aura toujours encore et encore. Et c'est sans fin. Donc, on entraîne simplement son esprit à voir toutes ses pensées sans s'y accrocher, sans les suivre. Rien n'a d'existence propre. Une pensée apparaît, puis elle disparaît d'elle-même. Elle ne vient de nulle part et ne va nulle part. On reste dans cet état de détente. On essaie de développer la présence à l'instant et de voir. Voir notre esprit non perturbé, stable, assis, posé. Cet aspect que les maîtres appellent népa. Ou bien voir notre esprit en mouvement. Une pensée qui s'élève. La perturbation qui prend place, puis une autre pensée, puis une autre, qui est le deuxième aspect que l'on trouve dans la méditation et que les maîtres appellent jiwa. Et il ne faut pas prendre ces deux aspects comme un défaut. C'est quelque chose de complètement normal. En méditation, notre esprit est tantôt dans le calme, tantôt dans l'agitation. Simplement, on s'entraîne à voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur, sans fixer quoi que ce soit. On regarde tout, sans analyser, sans commenter. Et on reste tranquille, posé, un émerveillement devant cette nature, devant la vie qui change d'instant en instant, parce que rien n'est figé. Tout se fait et tout se défait. Tout apparaît et tout disparaît. Tout naît et tout meurt à chaque instant. Et on reste ainsi ouvert à tout, sans saisir. Et rien ne nous dérange. Les saveurs, le goût, le toucher, on est complètement ouvert aux cinq sens, sans saisir quoi que ce soit. Le corps est complètement relax. On reste complètement disponible, ouvert, en étant ici et maintenant, d'instant en instant. Lorsqu'on se rend compte que l'esprit délire, eh bien, on revient sur le souffle. Puis l'esprit s'ennuie, on revient sur le souffle. Puis l'esprit s'endort, on revient sur le souffle. Et c'est comme ça d'instant en instant. S'entraîner à voir ce qui se passe au moment où ça se passe. On s'entraîne à retrouver cet état de simplicité. Sans saisir aucun phénomène, ouvert à tous, sans s'approprier les êtres, ouvert à tout et à tous, sans posséder chacun ou quoi que ce soit. On relâche complètement mais sans tomber dans la torpeur. Lâcher prise. Lâcher prise sur l'ego, notre propre ego, pas l'ego des autres, mais sur notre ego. Si on n'est pas vigilant, si on est dans la distraction, dans l'émotion, dans le conflit, eh bien, on est quelqu'un de pas libre. Donc, entraînons-nous à rester ainsi posé, calme, détendu. Et notre esprit va être de plus en plus clair, vigilant. Notre esprit va être de plus en plus ouvert, vivant. Et on va retrouver ainsi cette nature parfaitement claire et pure de notre esprit. Et c'est le but à atteindre. L'éveil, c'est de retrouver cette nature parfaitement claire qui a pour fondement d'abandonner, de nuire à soi-même et à autrui et d'être bénéfique envers soi-même et envers autrui. Pendant la méditation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, au maximum, ne rien faire. Il ne faut rien faire avec le corps. Le corps, il est assis, donc immobile. Donc, rien de spécial avec le corps. Avec la parole, il ne se passe rien, puisqu'elle est silencieuse. Et avec l'esprit, c'est pareil, puisqu'il est tranquille. Si notre esprit est tranquille, eh bien, on va vraiment développer les qualités qui vont nous amener au véritable bonheur. Parce que on va être détendu, calme, et on va laisser tout ce qui nous crée des obstacles. On va lâcher. Dans la méditation, ce n'est pas le moment de rester sur nos problèmes. Dans la méditation, on lâche toutes ces perturbations. On ne saisit rien. Ni les phénomènes désagréables, ni les phénomènes agréables d'ailleurs. On laisse son mental nu, sans saisir ce qui s'élève. Dans le contexte spirituel, la méditation, ce n'est pas penser, ce n'est pas réfléchir, c'est simplement laisser l'esprit dans sa dimension ouverte, spacieuse. C'est retrouver cette sagesse inhérente à l'être, cette sagesse intérieure. Et on reste ainsi, sans saisir aucun des phénomènes mentaux. On reste dans son état de simplicité naturelle. Et maintenant, eh bien, voici la phrase de la semaine qui est citée par Bernard Leblanc-Almos. Alors voici la phrase. Il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut aussi se le faire pardonner. Voilà, et bien nous arrivons au bout de votre émission Namasté, émission que vous pouvez retrouver tous les dimanches à 9h et tous les lundis à 20h, mais aussi sur Internet. Vous allez chercher sur votre moteur de recherche, CFM Radio Villefranche, et vous cliquez sur Namasté. Pour les exercices d'étirement et de respiration, vous pouvez toujours aller sur mon site qui est étirementyogaaveyron.com. Ou bien venir me rencontrer dans mon atelier à Villefranche-de-Rouergue qui se situe 6 rue de la Treille. Et bien voilà, je vais vous souhaiter une très très bonne continuation et vous dis à très bientôt, j'espère.
Limbuda jule tara.